Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament. Et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne.
De ce fait, nous allons consacrer du temps à l'étude de ce livre pour comprendre le message qu'il nous adresse aujourd'hui.
Lors de cette série d'études sur le livre de l'Exode, nous abordons les chapitres 11 à 13. Kiamanga va commencer en nous parlant du contexte de ces chapitres. Kiamanga, bonjour.
Merci Hélène et bonjour à tous. Le peuple d'Israël souffre depuis de longues années en Égypte où il est réduit à l'esclavage et subit de cruels traitements. Mais Dieu leur fait la promesse de les délivrer et il envoie Moïse pour être son porte-parole auprès de Pharaon. Toutefois, ces derniers refusent de laisser le peuple partir et, du coup, Dieu inflige le pays d'Égypte de divers fléaux. Malgré la souffrance qu'endure son peuple, le pharaon ne cède toujours pas à la volonté de Dieu. C'est alors que Moïse entre dans sa présence une dernière fois pour lui annoncer un fléau encore plus terrible et terrifiant que le précédent.
Merci Kiamanga pour cette introduction. Sandra va poursuivre ce récit qui se trouve dans le chapitre 12 du livre de l'Exode, à partir du verset 29.
Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte, depuis celui du Pharaon qui régnait sur le trône, jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison, et au premier-né des animaux. Cette nuit-là, le Pharaon se leva ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « « Levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. » Les Égyptiens pressaient le peuple pour qu'il quitte rapidement le pays, car ils disaient « Nous allons tous mourir !» Le peuple emporta sa pâte à pain avant qu'elle n'eût levé. Ils enveloppèrent leurs corbeilles à pétrir dans leurs manteaux, et les chargèrent sur leurs épaules. Par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens, qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent l'Égypte. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Soukhot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel important de gros et de menu bétail. Comme ils avaient été chassés précipitamment d'Égypte sans pouvoir préparer de provisions de route, ils n'avaient emporté que la pâte non levée. Ils se mirent donc à la cuire pour en faire des galettes sans levain. Les descendants d'Israël avaient séjourné durant 430 ans en Égypte. Au terme de ces 430 ans, le jour de la Pâque, toutes les troupes de l'Éternel quittèrent l'Égypte.
Merci. Nous arrivons à un grand tournant dans l'histoire du peuple d'Israël, qui est enfin délivré de l'oppression et découvre la liberté. Dans un premier temps, je voudrais souligner les leçons les plus importantes que nous pouvons apprendre de ces récits. Et ensuite, je me pencherai sur quelques détails intéressants. La première leçon est celle-ci. Dieu est le plus fort. Aucune puissance spirituelle ou politique ne peut l'empêcher d'accomplir ses desseins. Pendant de nombreux mois, une lutte acharnée s'est engagée opposant les pharaons et les idoles d'Égypte d'un côté et Dieu de l'autre. Les pharaons pensaient pouvoir tenir tête à Dieu du peuple d'Israël et, dans sa tentative de résister à la volonté de Dieu, son pays et son peuple en ont payé un prix très lourd en souffrance. Le pharaon n'a rien gagné. se sentant vaincu, il a fini par cesser toute résistance et il a enfin permis au peuple d'Israël de partir. Dieu prouve ainsi qu'il est plus fort que les hommes. Même ceux considérés comme étant les plus puissants dans leurs époques. Dieu prouve aussi qu'il est plus fort que les idoles, les soi-disant dieux d'Égypte qui étaient censés protéger et défendre le pays d'Égypte, ainsi que le Pharaon. Car ces dieux se sont avérés complètement impuissants devant les dieux d'Israël. La deuxième leçon est celle-ci. Dieu tient sa parole. Ses promesses finissent toujours par s'accomplir, même si l'attente semble parfois très longue. Dieu a fait un certain nombre de promesses à Abraham et à ses descendants. Le peuple d'Israël deviendrait un peuple nombreux et une nation prospère sur ses propres terres. Et pourtant, le séjour du peuple en Égypte semble remettre en cause ses promesses. Qui oserait croire que ce peuple en captivité, soumis à l'esclavage, deviendrait un jour une nation fière? Pourtant, Dieu est apparu à Moïse juste pour lui répéter ses promesses faites à Abraham et lui assurer qu'il allait bientôt libérer son peuple. Le récit lu aujourd'hui est une preuve parmi beaucoup d'autres dans la Bible que Dieu tient sa parole et qu'il accomplit ses promesses. Aujourd'hui, nous pouvons mettre notre foi en Dieu et faire confiance à sa parole, parce qu'il est celui qui finit toujours par accomplir les promesses faites à son peuple. Cette capacité de tenir sa parole repose sur sa toute-puissance. À notre niveau humain, nous pouvons avoir de la bonne volonté et vouloir tenir nos engagements, mais parfois les circonstances ou de personnes nous empêchent de réaliser nos promesses. C'est parce que nous ne sommes pas tout-puissants. Par contre, Dieu l'est. Il est tout-puissant et, pour cette raison, les circonstances et les puissances humaines et spirituelles ne l'empêcheront jamais d'accomplir ses engagements et ses bons desseins. L'un des événements du récit qui a retenu mon attention est celui-ci. Lors de leur départ précipité du pays d'Égypte, les Égyptiens ont donné une partie de leurs richesses à leurs voisins israélites. Mais pourquoi les Égyptiens se sont-ils empressés de donner des objets de valeur au peuple d'Israël? Les Égyptiens ont beaucoup souffert des divers fléaux que les dieux d'Israël leur ont envoyés pendant plusieurs mois. Les Égyptiens devaient en avoir assez de ces afflictions. Il est tout à fait possible alors qu'il y ait fini par désirer le départ du peuple d'Israël, au point même de vouloir l'aider. Il est aussi possible qu'en offrant ces objets de valeur, les Égyptiens espéraient apaiser la colère des dieux d'Israël contre leur pays. Une deuxième question se pose. À quoi allaient servir ces objets de valeur pour le peuple d'Israël? D'abord, les familles israélites possédaient maintenant un peu de biens, ce qui allait les aider dans leur nouvelle vie, une fois entrés dans la terre promise. Mais nous découvrirons d'autres usages de ces richesses plus tard lors de notre étude du livre de l'Exode. Une partie sera en effet consacrée à Dieu pour la construction du tabernacle, une espèce de palais royal démontable où Dieu sera particulièrement présent et qui servira de lieu de culte lors du passage du peuple à travers les déserts.
Merci Kiamanga pour votre participation aujourd'hui. À présent, c'est au tour de Robert de nous aider à comprendre la pertinence de ce récit biblique dans notre vie de tous les jours. Bonjour Robert.
Merci Hélène, et bonjour à tous. Votre premier invité a orienté nos regards sur les leçons les plus importantes. Nous pouvons faire confiance à Dieu parce qu'il est tout-puissant et qu'il réalise toutes ses promesses. Nous pouvons mettre notre foi en Dieu parce qu'il est un Dieu sauveur. Dans le Nouveau Testament, nous redécouvrons ce Dieu sauveur en la personne de Jésus-Christ Et l'on peut dire que, grâce à sa mort sur la croix, ce Sauveur, Jésus, a déclenché un nouvel exode. Quels sont les parallèles entre le salut que Jésus offre à tous et le départ ou l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte? Je rappelle ce que nous avons appris la dernière fois. Jésus est notre agneau pascal. Car tout comme les familles israélites ont été sauvées de l'ange destructeur grâce au sacrifice d'un agneau, nous sommes mis à l'abri, sauvés du jugement divin, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Ensuite, le peuple d'Israël a été sauvé de l'esclavage, de l'oppression et d'une culture fortement idolâtre et superstitieuse. Le Nouveau Testament déclare que Jésus accomplit en nous une œuvre de salut progressive. Il nous délivre progressivement de l'esclavage et de la domination du péché. Il nous délivre progressivement du monde et de ses mauvaises influences. Et puis, il nous délivre progressivement de Satan et du pouvoir que les idoles et les puissances maléfiques peuvent avoir sur nous. Puis, nous pouvons dire que le départ du peuple d'Israël du pays d'Égypte n'est que le début d'un long cheminement vers la terre promise et un avenir meilleur. De la même manière, quand Jésus vient nous sauver, nous commençons un voyage, un long cheminement vers notre espérance, la promesse de la résurrection, d'une nouvelle création et de la vie éternelle. Enfin, une grande multitude est sortie du pays d'Égypte. Selon le texte, ils étaient environ 600 000 hommes de pied. De même, Jésus a sauvé un grand nombre de personnes, un nombre inestimable que nous n'osons pas chiffrer. Cependant, il existe une grande différence entre le départ du peuple d'Israël d'Égypte et le nouvel exode déclenché par Jésus. La voici. Un seul peuple est parti dans le désert vers la terre promise. Mais le salut apporté par Jésus-Christ est pour tous les peuples du monde, sans exception. Une vision reçue par l'apôtre Jean confirme cette pensée. Écoutons ensemble, pour conclure mes propos, la lecture de l'Apocalypse, chapitre 7, les versets 9 et 10.
Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. »
Sur ce, nous terminons notre émission en remerciant tous nos participants. Ils seront de retour la prochaine fois pour la suite de notre étude du livre de l'Exode. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.